Chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me fends le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait sauter le pont.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites donc.
C'est jamais son jour.
S'il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Vous êtes sur Radio Grand Air, la radio de proximité, la radio du pays foyen et surtout la radio du cinéma. Et on retrouve Pascal de retour dans l'émission Entracte. Bonjour Pascal.
Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez tous et toutes les bienvenus dans ce numéro 63 d'Entracte.
J'attendais le terme Entracte. Et oui, on se retrouve comme chaque semaine sur la radio pour parler des rendez-vous forts du cinéma La Brèche à Sainte-Foy-la-Grande avec une sélection de rendez-vous et aussi une opération qui a lieu chaque année, la fête du printemps. On fête le printemps avec le cinéma, tout simplement, Pascal.
Alors le printemps du cinéma, alors il concerne pas forcément cette semaine-là.
Ah bah d'accord.
Ça sera la semaine prochaine.
Mais on est un petit peu à l'avance.
Tu fais bien de le mentionner parce que dans tous les cas, c'était dans mon organigramme, hein, évidemment. Oui, le printemps du cinéma comme chaque année. Chaque année, donc là, on vous propose pas cette semaine-là, la semaine prochaine, 23 films à 5 euros.
Là, il y a du choix. Hein.
À 5 euros, je tiens quand même à le préciser. Hein. Alors, la fête du cinéma, bon, alors, vu qu'on en parle, allons-y gaiement, ça sera du 19 au 21.
Ah, pile poil.
Pile poil. Donc, dimanche, lundi, mardi, tous les films seront à 5 euros. Voilà, ça c'est chouette. Et en plus, on a rajouté
tous les horaires choisis. En fait, on choisit les horaires. C'est
voilà.
D'accord.
Ah oui, là, il y a du choix. Je peux te dire. Donc, on a rajouté Simone, le voyage du siècle,
mm-hmm.
pour en reprise, hein, et Top Gun, Maverick.
Alors, ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez une chance de rattrapage.
Ouais.
C'est important.
Non, je dis une grosse bêtise. Tu vois, tu sais quoi? Je me suis planté de semaine. Non, il y aura bien la fête. C'est cette semaine.
Ah,
oui, il me semble bien. La semaine du 15. Oui, c'est moi, là. Tu vois, excuse-moi, on est en fin de journée, là. Tu vois, je commence à patauger un peu, là. Non. C'est cette semaine. Oui. Dimanche 19, lundi 20, mardi 21. Là, je rectifie, hein, toutes mes bêtises, là. Donc voilà. Donc 5 euros à toutes les séances.
Ouais.
Il y a de quoi, franchement, découvrir tout un tas de choses. 23 films, c'est du
Faites-vous
choix.
Faites-vous plaisir.
C'est du choix. Hein. Mm-hmm. Donc voilà, nous venez nombreux donc pour ce printemps du cinéma.
Voilà, et vous retrouverez le programme complet. On l'évoquera à nouveau dans l'émission d'ici ces prochaines minutes. En tout cas, vous pouvez retrouver le détail sur le petit fascicule que vous avez à l'entrée du cinéma, qui se trouve au comptoir, tout simplement.
Partout, même devant. Hein.
Ah, même devant aussi.
Même devant, ouais. Devant les portes, là, contre le mur. Les gens ne le trouvent pas souvent. Il y a un distributeur de programmes, hein, qui est juste à côté de la sonnette, là, à l'extérieur. Mais oui, parce que quand le cinéma est fermé, les gens, il faut qu'ils aient accès quand même au programme, hein, donc
et voilà,
donc
et distribué et bien sûr distribué dans
partout,
dans toutes les merceries, comme on dit,
voilà, tous les commerces de Sainte-Foy et 20 kilomètres autour de Sainte-Foy.
Voilà, c'est important parce que les gens viennent de loin à La Brèche.
Un certain, oui. Mmh. Oui, les gens, on est qui viennent de Duras, de Bergerac, et puis un peu partout.
Castillon, de Montpont.
Castillon, oui, Castillon viennent aussi. Ouais, non, c'est vraiment super. On les accueille à bras ouverts.
Alors Pascal, pour cette 63e édition d'Entracte, cette semaine sur Radio Grand Air, tu as choisi 7 rendez-vous cette semaine à La Brèche.
Ouais, exactement. Alors on va parler d'un film norvégien. On va parler du Lion et des Trois Brigands. Ça, c'est un film pour enfants. On va parler aussi d'un film ukrainien. Toujours pour les enfants, Le Royaume de Naya. On va parler aussi du dernier film de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, La Chambre des Merveilles.
Oui, grosse promo en ce moment à la télé, hein, on en parle beaucoup. Ouais.
On va parler aussi d'un film de Florian Zeller, The Son, c'est-à-dire le fils. On va parler aussi de la dernière réalisation de Mélanie Auffray, Les Petites Victoires, une petite comédie là qui marche bien. On va parler aussi du film, d'un film qui a quand même bien marché, qui a fait parler de lui, et surtout d'un acteur hein, qui était resté un petit peu dans l'ombre. Hein. On va parler du dernier film de Darren Aronofsky, The Whale.
Oui, effectivement, avec une performance scénique de l'acteur.
Voilà, de Brendan Fraser.
Qu'on retrouvera à la fin de l'émission, parce que tu as prévu un petit sujet
ouais,
sur lui.
Exactement, hein. Voilà, c'est pour ça que je lui ai consacré quand même en personnage de la semaine, parce que il a eu un parcours difficile, hein, Brendan Fraser. Donc, et là, il revient sur le devant de la scène, il revient parmi la lumière et tout, et avec une excellente performance. Alors, moi, je l'attendais pas là-dessus, sur ces tableaux-là.
Un artiste qui a du poids, hein, en fait.
Qui a du poids, oui. En plus, oui, mais tu sais que ça, il a été récompensé aussi pour les meilleurs maquillages et tout,
ouais,
hein.
Ouais.
Donc oui, effectivement, on va parler de The Whale, hein, de Darren Aronofsky. Et pour terminer, on va parler d'un petit film français de Sébastien Tullard, À la belle étoile. Et donc, évidemment, le personnage de la semaine, Brendan Fraser.
Voilà, un joli programme. On commence par les plus jeunes, hein, comme d'habitude. Hein, c'est un petit peu la tradition dans l'émission. Avec Le Lion et les Trois Brigands. Tu disais que c'est une production norvégienne.
Un film de Norvège, oui, absolument.
C'est pas courant, ça.
C'est pas courant. Oh, ils en font de temps en temps. Oui, les films scandinaves, on en a de temps en temps. Hein. Donc, Le Lion et les Trois Brigands. Un film norvégien du Norvin, un film d'animation famille hein, de Rasmus Siversten. Dans un film à partir de 3 ans. Donc, bienvenue à Cardamone, la ville la plus paisible du monde. La boulangère prépare ses petits pains. Le cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du beau temps. Rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? Point d'interrogation. C'est sans compter sur 3 drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan qui se sont mis en tête de s'aventurer en ville. Et attention, ils ont un lion. Et oui, non seulement ils sont brigands, mais ils ont un lion. Alors, Rasmus Siversten a précédemment adapté une première œuvre de Thorbjørn Egner. Qui s'appelle Dans la forêt enchantée de Ukibuki en 2016, avant de s'atteler au Lion et les Trois Brigands en Norvège. Et le réalisateur explique. Donc Thorbjørn Egner est l'un des écrivains les plus célèbres de Norvège, et Le Lion et les Trois Brigands est probablement l'histoire la plus connue du pays. J'ai grandi avec les livres de Thorbjørn, ses pièces radiophoniques et les pièces de théâtre qu'il a écrites, je les apprécie beaucoup. Certaines références ou citations tirées de ces histoires font partie de nos expressions quotidiennes. Par exemple, être une tante Sophie ou suivre la loi de Cardamone. Alors, Le Lion et les Trois Brigands est une combinaison de décors en volume et de personnages. C'est le premier long métrage à utiliser ces techniques, comme l'explique Rasmus Siversten. Et comme il nous dit, nous avions initialement prévu de tourner un film en stop motion, mais la pandémie a rendu le tournage impossible. Nous avons donc passé une année à filmer tous les arrière-plans du film avec une équipe réduite en plein confinement. Puis nous avons créé des personnages numériques et les avons intégrés et animés dans les décors. Le tout combiné après une post-production particulièrement soignée, l'illusion de stop motion est presque complète. Alors Le Lion et les Trois Brigands présentent un point de vue social et moral puissant. Et comme le réalisateur nous dit, pour commencer, le message du roman est toujours d'actualité. L'histoire raconte la nécessité de faire acte de tolérance et d'inclusion pour vivre en groupe ou en société. Je suis plus que heureux de transmettre de tels principes aux jeunes générations. Le film défend la valeur égale de chaque individu, qu'on soit un marginal ou non. C'est un principe capital. Malheureusement, ce thème est demeuré assez pertinent qu'il ne l'était dans les années 50, à l'époque où Egner a écrit la première version. Raconte Rasmus Siversten. Voilà, un film plein de morale, plein de leçons à tirer au travers d'un film d'animation.
Et à vivre à partir de 4 ans, hein, puisqu'on
absolument,
on voilà, démarre très
pour
jeune.
Les tout petits, hein. Pour les tout petits
absolument.
Aussi. Ouais, ouais.
C'est donc, cette semaine, donc, à la brèche.
À découvrir la brèche, donc, cette semaine.
On va poursuivre avec un autre rendez-vous, une autre sélection cette semaine, Pascal, avec Le Royaume de Naya. Là aussi, c'est un rendez-vous, un film d'animation ukrainien cette fois-ci. Alors c'est
voilà, il vient d'Ukraine. Alors celui-ci, oui, on n'en a pas beaucoup de films d'animation.
Surtout avec les événements en ce moment.
Ukrainien, oui. Peut-être qu'il leur déroule le tapis, je ne sais pas trop. Mais tant mieux, dans tous les cas, c'est une création pour les enfants. Et moi, j'aime bien que ça arrive de tous les horizons. Hein. On a eu des films estoniens, lettoniens.
Oui, ça permet de voir un petit peu, de comparer un petit peu les les productions étrangères entre elles.
Et puis c'est chouette parce que ça ouvre, si tu veux, le marché, parce qu'avant c'était souvent des petits films américains, souvent pour les petits. Ils dominaient un petit peu le marché. Et là, ça a tendance à se divertir et c'est très bien. Donc le Royaume de Naya. Donc c'est un film ukrainien d'1h29, un film d'animation fantastique de Olle Balamuts et Alexandra Ruban. Donc ce film est à partir de 6 ans. Alors, par-delà les hautes montagnes noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elle protège du monde des hommes une source de vie éternelle au pouvoir infini. Jusqu'au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. À l'encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir sans prendre garde aux conséquences qui s'abattront sur le royaume. L'aventure ne fait que commencer.
On en sait
voilà
déjà.
Voilà un joli scénario de la rencontre de ces deux personnages-là. Voilà. Alors hélas, je n'ai pas réussi à récupérer des infos techniques sur la création, sur l'origine, la genèse, un petit peu de cette histoire-là. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé. Mais j'aurais bien aimé.
Ah, peut-être qu'on aura quelques infos d'ici ces prochaines semaines, on ne sait jamais, hein,
j'espère.
Un petit peu lors du lancement de ce film d'animation.
Donc voilà, donc le Royaume de Naya, donc à découvrir pour les petits, donc à partir de 6 ans, hein, à découvrir cette semaine à la Brèche.
Eh bien, c'est noté, Pascal, pour ce joli rendez-vous. Là aussi, ça va être une très très belle comédie. Alors, c'est un petit peu triste, mais c'est aussi plein d'espoir. C'est le retour d'une actrice qu'on aime bien aussi, Alexandra Lamy, qui revient dans ce film La Chambre des Merveilles.
Exactement. Donc, La Chambre des Merveilles, c'est un film français d'1h38. Et c'est un drame de Lisa Azuelos. Alors, au niveau des acteurs, on va retrouver une bonne kyrielle d'acteurs. Il y a quand même une sacrée distribution. On va retrouver Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Quetel, Xavier Lacaille, Martine Chambaché, Karima Amarouche et Aïe Aïdar. Donc c'est le pari fou d'une mère qui est prête à tout pour aider son fils à se réveiller du coma. Après l'accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les 10 choses à faire avant la fin du monde qu'il avait inscrites dans son journal intime. En écoutant ses aventures, Louis verra combien la vie est belle et qu'il doit revenir. En accomplissant à 40 ans, les rêves d'un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable qui l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait. Alors, La Chambre des Merveilles, il est basé sur le roman du même nom de Julien Sandrel. Lisa Azuelos ne l'avait pas lu à sa parution et n'a pas voulu le lire avant de tourner le film, préférant s'appuyer sur le scénario de Juliette Salès et Fabien Suarez, qu'elle s'est approprié. Il s'agit d'ailleurs du premier de ses films qu'elle n'écrit pas. Alors Lisa Azuelos a toujours puisé dans sa vie personnelle pour ses films. La Chambre des Merveilles est arrivée à point nommé. Et comme elle nous dit, je ne voulais plus faire de cinéma. Arrêter d'aborder des sujets si personnels comme je le fais depuis mes débuts de réalisatrice. Après mon bébé, j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour. Mon dernier enfant était parti de la maison. J'avais l'impression de ne plus rien avoir à raconter, de devenir vieille, bref. Je faisais une sorte de ménopause cinématographique.
C'est original.
Ouais, c'est pas mal. C'est le producteur, donc Philippe Rousselet, qui lui a proposé de tourner La Chambre des Merveilles. Et l'attachement d'Alexandra Lamy au projet l'a définitivement convaincu. Nous sommes très amis depuis plus de 10 ans et nous voulions travailler ensemble depuis longtemps. Avec elle, je savais que j'allais m'amuser, même si le sujet du film est assez grave. Alors, Lisa Azuelos a été attirée par l'ailleurs que promettait le récit. La Chambre des Merveilles embarque le spectateur au Portugal, en Grande-Bretagne et au Japon. L'équipe a dû s'adapter aux contraintes liées au confinement, en particulier pour le Japon. Donc l'équipe était incertaine de pouvoir s'y rendre jusqu'au dernier moment où il était difficile de recréer ce pays en studio. Et ça, je veux bien le croire. Aussi, le film était-il monté et terminé quand le Japon a rouvert ses frontières à l'été 2022. Une équipe réduite de 4 personnes en a profité pour s'y rendre. Et comme elle nous dit, nous avons eu très peu de temps pour préparer le tournage. Les Japonais nous disant que c'était de toute façon très compliqué sur place, sauf à disposer d'un gros budget et d'une longue préparation en amont. C'était donc une sorte d'opération commando. C'est vrai qu'ils ont borné. Le Japonais, il a borné. Tu vois, mais s'il a ouvert les frontières, il a dit « oh là 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 ». Donc voilà un petit peu pour vous donner tu veux, quelques éclaircissements. Pour le tournage de ce film-là, donc La Chambre des Merveilles, que nous aurons cette semaine à la Brèche.
de Sainte-Foy la Grande.
De Cadicodré, bien sûr.
Voilà, on en parlait il y a quelques instants. Pascal, c'est une grosse promo aussi à la télé. C'est bien parce qu'aujourd'hui la télévision, on en parlait il y a quelques temps.
Elle fait le relais.
Joue le jeu par rapport au cinéma et par rapport aux sorties, suivant les productions, mais évidemment, hein, c'est pas pour tous les films, dommage, mais en tout cas, actuellement, Alexandra Lamy fait un petit peu les plateaux de télévision pour parler de ce film.
Faire la promo du film, oui. Mm-hmm. Oui. Et puis même la télé refait la promo du cinéma. Parce qu'à un moment, j'ai l'impression que c'était un petit peu, ça avait un petit peu disparu des petits écrans, la promo des films. Mais alors, la télé, c'est quand même un bon support pour promouvoir le cinéma. Hein. Même si les deux sont parfois un petit peu en concurrence, hein, mais je trouve ça très bien. Oui, effectivement, des fois, je tombe vraiment sur des films annonces, de films qu'on va passer, c'est un plus. C'est un plus quand même. Un film annonce, c'est quand même mieux qu'un gros papier ou ce genre de choses, quoi. Ça parle plus, quoi.
Eh bien, je propose de marquer une petite pause dans l'émission. Pascal, on va découvrir la bande annonce et on se retrouve juste après sur Radio Grande Terre.
T'as eu des notes un peu aujourd'hui ?
Un 12 en maths.
12 ? Bah, c'est pas génial.
Bah, si, en sachant que la moyenne est à 14.
Oh, excuse-moi, c'est le boulot. Je suis désolée. Même le week-end. Allô ? Louis !
Votre fils est dans un coma induit. Son pronostic vital est engagé.
Ça fait 6 mois que je fais tous les jours hôpital, entrepôt. On a vu tous les spécialistes et puis. Et puis rien.
À réaliser avant la fin du monde, parce que ça va peut-être arriver plus vite que prévu.
Tu crois vraiment que si tu réalises tout ce qu'il y a là-dedans, il va se réveiller ?
Je sais pas, maman.
Mais tu trouves que je suis folle ?
Oui.
Mais ça me plaît. Il y a quoi dans cette liste ?
Taguer mon loup sur la caserne militaire.
Allez, maintenant ! Hé,
vous ! S'excuser auprès d'Amara.
Bonjour, Amara.
Tu sais, Louis s'excuse.
Faire dédicacer mon skate par KGI à Tokyo.
Allô ?
Vous n'êtes pas en Asie par hasard ?
Non, pas du tout, là, je suis au boulot.
On va se battre.
J'aurais tellement voulu partager tout ça avec toi. Pourquoi tu m'en as jamais parlé ? C'est parce que je te parle toujours de tes notes. Enfin, je suis une maman, quoi. Enfin, on s'inquiète toujours.
C'est quoi le vœu d'après ?
Savoir qui est mon père et le rencontrer au moins une fois.
Ce type a le droit de savoir que son fils est dans le coma. Tu lui as jamais dit qu'il avait un fils ? Vous croyez que je me bats pour rien ? Non ? C'est pas fini ? Tu m'envoies un signe là, à mon loulou.
Voilà, La Chambre des Merveilles, un film poignant, fort à la fois, plein d'émotions et je pense que c'est un très très bon rendez-vous hein, à voir avec une excellente Alexandra Lamy qui joue un superbe rôle en tout cas. Ouais. Eh bien, c'est noté pour ce rendez-vous, Pascal. On enchaîne avec le fils cette fois-ci.
Oui, on va rester dans le cocon familial. On va parler du fils. The Son.
Ouais.
En anglais. Donc c'est un film donc franco-anglais de 2h03. Hein, c'est un drame hein, de Florian Zeller. Alors, Florian Zeller, il faut savoir une chose, que The Son, c'est son deuxième film. Et son premier a été ovationné par la critique. Hein. Son premier film, il est en 2020, c'est The Father, avec Anthony Hopkins et Olivia Colman. Mm-hmm. Et il frappe fort parce que dans un film, il y a un illustre acteur qui s'appelle Hugh Jackman.
C'est
que tout le monde a vu dans les Marvel et tout, tu vois.
Exactement.
Ouais, ouais. Voilà, Wolverine, évidemment, tout le monde s'en souvient. Donc, au niveau des acteurs, il y a quand même des acteurs que j'aime beaucoup. Donc Hugh Jackman évidemment, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath et Anthony Hopkins qui revient, donc il re-signe pour Florian Zeller. Il joue dans The Father évidemment, Anthony Hopkins. Donc à 17 ans, donc Nicolas semble en pleine dérive. Il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Mais que lui arrive-t-il ? Dépassé par la situation, sa mère accepte qu'il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d'un nouveau-né, il va tenter de dépasser l'incompréhension, la colère et l'impuissance dans l'espoir de retrouver son fils. Après son premier long-métrage, donc The Father, le réalisateur Florian Zeller adapte une nouvelle fois au cinéma une de ses pièces, le fils. Créée en 2018, elle était jouée par Yvan Attal, Anne Consigny, Elodie Navarre et Rod Parado. Il s'agit de la dernière pièce d'une trilogie qui compte également la mère et le père. Et comme il nous dit, je n'ai pas le projet d'adapter toutes mes pièces, mais après The Father, je savais que si j'en avais la possibilité, The Son serait mon prochain film. C'est une histoire qui me tenait énormément à cœur, explique Florian Zeller. Alors après la démence sénile de The Father, Florian Zeller se frotte à nouveau à un sujet épineux avec la dépression adolescente. Un sujet qui le touche particulièrement. Et comme il nous dit, en montant la pièce au théâtre, j'ai réalisé presque physiquement à quel point il concerne presque tout le monde, plus ou moins directement. Il y a tellement de gens en souffrance, mais aussi tellement d'ignorance, de honte et de culpabilité autour de ces sujets. Il tenait à aborder le sujet frontalement, sans détourner le regard, d'où une narration très linéaire, dont le fil tendu vers la fin nous dirige vers quelque chose de l'ordre de la stratégie, de la tragédie, pardon. Selon lui, traiter de ce sujet est d'autant plus important depuis la récente pandémie qui a fragilisé psychologiquement les plus jeunes. Et comme il nous dit, je crois beaucoup au pouvoir cathartique de l'art, et du cinéma en particulier, quand on traverse une période difficile dans sa vie. On a toujours l'impression qu'on est seul au monde. Le cinéma nous permet de nous souvenir que ce n'est pas le cas. Alors, bien qu'il donne son titre au film, le personnage du fils est totalement opaque. Je ne voulais pas tenter d'expliquer ou de justifier ce mal-être, mais au contraire, d'oser le regarder comme quelque chose d'inexplicable, d'insaisissable et même d'inconfortable, nous explique Florian Zeller. Contrairement à The Father qui nous plongeait dans le cerveau du personnage principal, The Son nous met à la place des parents du malade qui tentent de comprendre ce qui se passe en vain. C'était une façon d'explorer ce sentiment d'impuissance, ces situations où on ne sait plus quoi faire malgré ses bonnes intentions. Alors la séquence de où Jackman s'entretient avec son père, joué par Anthony Hopkins, n'existait pas dans la pièce originale. Et Florian Zeller l'a ajouté pour retrouver le comédien qu'il avait dirigé dans The Father, pour lequel il a obtenu l'Oscar du meilleur acteur. Faut pas l'oublier ça, hein. Il s'agit d'une scène pivot pour le réalisateur. C'est en effet un moment où on comprend que ce père est aussi un fils en souffrance et qu'au fond, il tentait juste d'être un meilleur père que celui qu'il a eu. C'est sans doute parce qu'il est encore complètement hanté par son propre passé qu'il ne parvient pas à gérer les défis de son présent en tant que père. Je tenais à décrire cette équation transgénérationnelle. Alors, un truc qui est quand même assez intéressant là-dessus, c'est... D'habitude, c'est le réalisateur qui va chercher les acteurs.
Ah oui, oui.
Tu vois ce que je veux dire? Il écrit, il pense un titre, ce rôle, tiens, bien ouais. Tel ou tel acteur. Mais là, c'est le contraire.
Ah bon?
Hugh Jackman, oui, qui avait eu vent du projet.
C'est lui qui a toqué à la porte.
C'est lui qui a appelé Florian Zeller pour lui dire, c'est mon rôle, je suis le personnage.
Tiens, travaille pour toi.
Qu'il vous faut. Et oui. Donc, c'est Hugh Jackman lui-même qui a écrit à Florian Zeller. Impressionné par The Father, il s'est empressé de lire Le Fils quand il a su qu'une adaptation était en cours. Dans son mail, il est souhaité rencontrer Zeller pour lui expliquer pourquoi il devait faire ce rôle. Il devait. Ça, j'aime beaucoup. J'ai été touché par l'humilité et le courage de sa démarche, nous dit Florian Zeller, mais aussi par l'honnêteté qu'elle impliquait. Nous nous sommes rencontrés par Zoom et j'ai tout de suite senti que cette histoire ne lui était pas étrangère et qu'il pourrait faire quelque chose d'unique. Aller chercher en lui-même des émotions profondes et authentiques. Sans tricher, sans tenter de faire une performance. C'est un grand acteur, mais c'est aussi un homme extraordinaire, d'une grande bonté, d'une pureté étonnante, et cela m'a séduit pour le rôle, raconte le metteur en scène. Et voilà, ça c'est vraiment une drôle d'histoire.
C'est original. Ouais.
Oui. Alors, Florian Zeller n'a pas organisé de répétition avec ses comédiens. Je ne voulais pas que l'on tourne une scène en ayant des idées préconçues sur ce qui devait se produire. Le fait de ne pas savoir, de découvrir les choses dans l'inconnu de l'instant, permettait d'être surpris par les émotions qui y jaillissent. Voilà, une drôle de façon de travailler quand même.
Sur l'instant, ouais.
Oui. Donc pour l'une des scènes clés à la fin du film, il n'a fait qu'une seule prise et a prétendu aux acteurs qu'il ne s'agissait que d'une répétition pour la caméra. Donc, tu vois, il est quand même un petit peu berné. La réaction à l'écran n'est pas feinte. Il s'est passé quelque chose d'inédit, d'inattendu. Et la surprise, mais aussi la terreur que l'on peut lire sur leur visage, était une surprise réelle. Une réelle terreur, il ne s'y attendait pas du tout. C'est chouette quand même de surprendre son petit monde comme ça. C'est évidemment quelque chose que nous n'aurions pas pu faire si nous avions répété. De même, à la demande du réalisateur, Laura Dern n'avait rien vu du plateau avant son premier jour de tournage, qui correspond à la première scène du film. Ainsi, quand elle a frappé à la porte de Hugh Jackman, elle découvrait le décor de l'appartement ainsi que Vanessa Kirby, qu'elle n'avait pas rencontré auparavant. Tout ce petit monde se découvre pour la première fois sur la scène. dans les premiers décors et tout. Et moi, j'aime beaucoup sa façon de travailler, à M. Zeller.
Ah, ça crée des émotions, ça crée aussi des liens qui peuvent effectivement jaillir de scènes, d'émotions. Hein, l'instant et l'instantané, c'est aussi riche.
Vous voulez vraiment les surprendre. Vous voulez vraiment les surprendre pour justement que ça soit pas, la scène ne soit pas altérée par du déjà vécu. Ouais. Tu vois. Et c'est quand même plutôt intéressant. Hein, j'en connais pas beaucoup qui font ça. Hein. Voilà un petit peu pour vous donner quelques éclaircissements donc sur le film donc de Florian Zeller. Donc après The Father, The Son,
que vous pouvez voir
La Brèche, hein, vous l'aurez en VO, VF,
c'est ça,
à votre convenance,
au choix.
Voilà,
c'est l'avantage. On va parler de notre rendez-vous avec le retour de comédiens là aussi pour une comédie assez assez légère et à la fois ma foi sympathique. Michel Blanc hein, qu'on va retrouver dans le rôle d'un vieux bonhomme qui va revenir sur les bancs d'école.
Oui.
Émile.
Oui, c'est vrai. Émile. Les petites victoires. Un film français d'une heure trente, c'est une comédie de Mélanie Auffray. Et là, c'est son deuxième film. Ah oui, aussi. Florian Zeller, c'est son deuxième film. On lui souhaite vraiment du succès. Ouais. Moi, je pense qu'il en aura parce que c'est quelqu'un qui est intuitif et inventif. Et je m'en fais vraiment pas pour lui. Avec le succès de The Father, je vois pas comment il peut se ramasser avec The Son. Donc là aussi, Mélanie Auffray, c'est son deuxième film. Son premier film, c'était de Roxane. En 2018, avec Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker et Léonie Labelanski. Donc, on lui souhaite aussi une bonne chance.
Absolument.
Mélanie, ouais. Vraiment.
Un bon courage.
Film. Oui, parce que là, il faut, voilà, c'est assez compliqué pour faire sa place un petit peu au box-office. Hein. Alors, au niveau des acteurs et de la distribution des rôles, on va retrouver Michel Blanc, Julia Piaton, Léonie Labelanski, Marie Brunel, Marie-Pierre Cazé, Sébastien Chassagne, India R et Bruno Raffaelli. Donc, entre ses obligations de mère, donc MAI, R.E.
Oui.
Son rôle d'institutrice au sein d'un petit village de Kergen. Les journées d'Alice sont déjà bien remplies. L'arrivée dans sa classe d'Émile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu'Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école. Là, il y a projet. Je te le dis, moi. Donc, ayant grandi dans une petite commune, Mélanie Auffray voulait évoquer avec les petites victoires la ruralité et le phénomène de désertification des villages, qui est un sujet d'actualité. Et comme elle nous le dit, la particularité du phénomène de désertification, c'est qu'il en provoque d'autres. La fuite des populations vers les grandes villes n'engendre pas seulement une perte d'activité, mais aussi une perte de lien social. Ce sont d'abord les commerces qui ferment et s'éloignent les lieux. Et s'éloignent les lieux de convivialité qui se raréfient, l'accès aux premiers soins qui se restreint, puis les écoles qui ferment. Alors là, on est en plein dans notre époque, entre parenthèses.
Exactement, hein. Beaucoup de villages comme ça se sont un petit peu désertifiés, on va dire.
Hein. Mais oui, ils sont même abandonnés. Hein. Ouais. C'était devenu certains villages des cités dortoirs, donc du coup les gens sont plus là la journée, les habitudes changent aussi.
Il y a des initiatives,
faut que ça soit la volonté.
Voilà, il y a des initiatives qui sont faites dans ces petits villages, justement, de remettre un petit peu de vie avec ces commerces de proximité à l'ancienne.
Donc c'est vraiment une histoire de volonté aussi.
Ouais. Absolument.
Mais ça va revenir dans tous les cas. Je veux dire, les grandes villes, ça devient de plus en plus cher et invivable.
Exactement.
Surtout,
super pollué. Ce lien qu'on peut avoir derrière le camion d'épicerie qui fait le tour du village.
Par exemple, Et les villes moyennes commencent à regrossir. Les gens fuient les grandes villes. Ils vont vers des villes un peu plus petites.
Oui, ils recherchent un petit peu plus de tranquillité.
Plus à l'échelle humaine, on va dire. Ouais. Où peut-être qu'ils viennent aussi à la recherche d'un lien social. Parce que dans une grande ville, je dis pas que tu n'es personne, mais franchement...
Ça me fait penser au film de Lambert Wilson, qu'on avait diffusé il y a pas longtemps, qui s'égare, qui a une panne sur la route et qui se retrouve à découvrir la nature, en fait.
Exactement. Et d'autres cartes de vie, une autre manière de vivre aussi. Mais c'était les choses simples, effectivement. Donc, lors de l'écriture, Mélanie Auffray s'est lancée dans un travail de terrain, une étape qu'elle estime primordiale et qu'elle apprécie particulièrement. Et comme elle nous dit, c'est une des étapes dans le travail d'écriture que je préfère. J'ai le sentiment de partir à la rencontre de mon sujet et de mes personnages. Elle a côtoyé de nombreux maires de petites communes afin de comprendre les enjeux auxquels ils font face. L'une d'entre elles, Fanny Lacroix, maire de Châtel en Trièves, une petite commune de 500 habitants en Isère, l'a particulièrement marquée et l'a inspirée pour le personnage d'Alice. Et comme elle nous dit, c'est une mère célibataire à l'énergie débordante dont la détermination et le courage m'ont tout de suite bluffé. Et c'est également renseigné sur l'illettrisme qui touche presque 7% de la population de notre pays et a rencontré de nombreux adultes qui sont retournés sur les bancs de l'école à l'âge adulte. La réalisatrice a trouvé le co-scénariste de son précédent et premier long métrage, Michael Souhaitait, et a fait appel à un consultant scénaristique, Romain Compin, pour trouver le vrai squelette du film, la rencontre entre Alice et Émile. Alors malgré ces sujets, la désertification des villages et l'illettrisme, donc, Les Petites Victoires est une comédie. La réalisatrice souligne « Il était cependant important pour moi de rester dans les codes du cinéma que j'aime, à savoir la comédie où le propos, en apparence léger, permet tout de même de donner à réfléchir, car le film s'appuie sur des personnages positifs. Et souligne aussi l'importance de faire les choses ensemble. C'est cette combinaison qui a séduit Michel Blanc. Mélanie Auffray a choisi d'en faire une comédie à la fois optimiste et très drôle, pour contrebalancer le côté profond et dur de la réalité de l'illettrisme. On assiste au parachutage d'un homme mûr dans une classe de gamins entre 6 et 9 ans qui pour la plupart sont plus avancés que lui dans l'apprentissage de la lecture. Ce contraste est forcément source de comédie et il m'a offert le plaisir de jouer avec des enfants. Julia Piaton renchérit, effectivement, la force de Mélanie, c'est qu'elle parvient à dire des choses graves avec beaucoup de joie et de fraternité. Car elle rappelle sans cesse le côté capital du lien humain, de l'attention que l'on porte aux autres et de la bienveillance. Alors diriger Michel Blanc, c'était plus un rêve qu'un projet pour la réalisatrice qui ajoute au sujet du comédien. C'est un acteur qui sait tout jouer et peut tout s'approprier. Il est juste et authentique. Quant à Julia Piaton, c'est une actrice dont elle suit le parcours depuis plusieurs années. Je suis très honoré que Les Petites Victoires soient son premier rôle, et je l'espère celui d'une longue série. Elle s'est particulièrement investie pour le rôle d'Alice, effectuant un travail de terrain aux côtés de son cousin, maire d'un petit village normand, ou avec Amélie, institutrice du village de Juche, qui m'a également inspiré. Et oui, elle a fait le tour des communes, des clochers, des mairies. C'est bien ça, elle est allée vraiment, on va dire, s'imprégner... De différents univers pour essayer de générer son scénario. Alors évidemment, elle a fait un petit peu le tour de France, donc l'équipe a organisé une tournée d'avant-première de 5 mois dans près de 110 villes. Les petites victoires parlant de la désertification. Il paraissait évident pour la production de se rendre dans des villes, des villages et des petits cinémas qui n'accueillent pas d'habitude des avant-premières. Merci de penser aux petites salles. Merci.
Très
de penser
important.
Au mono-écran qui souvent n'existe pas trop. Les mono-écrans sont vraiment perdus dans la masse. Hein. Même les deux ou trois écrans, hein, ça reste quand même des petites structures. Et ben c'est chouette d'avoir poussé leur porte et merci.
Cinéma Paradiso.
Cinéma Paradiso, oui.
C'est un vieux film, non, mais c'était...
C'est un vieux film, tu sais que je n'ai toujours pas vu.
Ah bon?
Non, j'ai jamais vu ce
avec
film.
Avec Poiret
Non.
Non, c'était pas Poiret. L'acteur qui nous a quittés d'ailleurs il y a quelques
Philippe
années.
Noiret.
Philippe Noiret, oui. Voilà, exactement. Très très bon film aussi, où durant une période très compliquée, on pouvait assister à ces séances de cinéma en catimini dans un petit village. Voilà. Et ça me fait penser à ça justement, ces moments un petit peu intimistes.
Ah mais c'est là en plus. Ouais, mais ce qui est chouette, c'est en plus tu découvres vraiment le métier de projectionniste là par contre. Louis.
Exactement.
Alors, c'était ouais. Ça un projectionniste parce que en fait le métier de projectionniste n'existe pas.
Ouais.
On dit projectionniste parce que c'est la manière vulgaire de l'appeler, mais c'est opérateur projectionniste. Avant de projeter, il faut monter le film. Et c'est ça le travail de l'opérateur. Monter, vérifier son programme, regarder qu'il soit en bon état. Pas pareil et qu'il soit exploitable, tout ça. Et ensuite, après, il faut le démonter. Voilà le travail du évidemment, charger le film sur le projecteur. Mais c'est ça le travail de l'opérateur. Donc, en fait, on dit pas projectionniste, on dit opérateur projectionniste. Et en plus, c'est un métier qui a disparu. Ouais. On dit plus projectionniste maintenant. On dit agent de cinéma, on sait plus comment les appeler, les gars.
Technicien
numérique, tout ce que tu veux. Mais voilà, projectionniste, non, parce que, on influe plus sur les focales, on fait plus la mise au point. C'est qu'avant on réglait le son et on faisait la mise au point, hein, disait, maintenant c'est fini tout ça, hein, c'est réglé numériquement. Et voilà, et ainsi a disparu le travail d'opérateur et de projectionniste. Hein, voilà.
Enfin, c'est tout de même intéressant d'avoir des vieux de la vieille, hein, qui seraient capables de remonter des films et de régler des vieilles machines.
Mais, hein. Tu sais, j'avais raconté l'histoire il n'y a pas très longtemps, hein, quand on est venu me chercher dans le pays du Castillonnet là-bas, parce que le gars était planté devant un projecteur des années 30. Hein. Et effectivement, pour le même moi, je l'ai fait vraiment Déduction. J'ai réussi à charger sa bécane parce que ça casse vite. Hein. Si tu charges mal, il y a tout qui explose. Donc oui, on se fait rare, hein, on se fait rare. C'est pour ça que je l'avais dit, je suis le dernier des Mohicans. Bonjour. Mon nom est Pascal.
C'est comme en radio, hein. C'est pareil. Hein. Radio, ouais. L'évolution de la radio avec les bandes magnétiques voulant monter au scotch.
Ouais, pareil, oui. Bah, tu vois, ouais,
les montages, c'était un petit peu pareil. C'était l'époque.
Il y a un brin de bricolage.
Beaucoup de manuels. Hein, ah,
oui,
c'était.
Ouais, mais c'était chouette, c'est bien. Ouais. Les métiers manuels.
Il y avait ce côté
tactile.
Ouais, tactile. Ouais. Exactement. Ouais. Très important. Alors les petites victoires, un sujet intéressant, on parlait d'illettrisme justement, oui. Et d'ailleurs il y a eu un sujet il n'y a pas longtemps à la télévision sur France 2, d'un monsieur qui a une cinquantaine d'années, qui ne sait ni lire et écrire, et qui prend des cours justement, parce qu'il s'est marié il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment un handicap, hein. On ne peut pas faire beaucoup de choses, on est coincé, on n'arrive pas dans la vie, c'est pas évident.
Ouais, il faut composer.
On est isolé.
Il faut composer, à mon avis, faut, t'es un peu isolé. Mais j'imagine que dans tous les cas, l'être humain s'adapte à tout. Donc, même si tu sais pas lire, tu t'adaptes quand même.
C'est ça.
Donc, mais par contre, je suis quand même assez épaté par le chiffre. Hein, 7%, c'est beaucoup.
Ouais.
Hein.
C'est beaucoup, ouais.
Beaucoup, 7% quand même.
Eh bien, on va écouter un extrait de la bande-annonce du film Les Petites Victoires avec le retour de Michel Blanc sur les écrans cette semaine.
J'ai une bonne nouvelle. Je me suis arrangé avec la boulangerie de Boirec. On peut vendre leur pain ici.
Bah, je conteste pas, Alice, mais pourquoi on rouvre pas le bistrot ?
Je crois qu'on détient le record départemental de retraite permis par habitant.
Tu l'as toujours, ta tireuse ?
Qu'est-ce que je vois, madame le maire ? Qui est enterrée à côté de mon Marcel ? Cette garce de Georgette Moreau.
Et alors ?
Elle a toujours tourné autour de mon mari.
Bordel, il y a un trou comme ça dans la chaussée.
On attend son tour.
Oh, ta gueule, la cocu. J'ai failli escater ma bagnole, faut me réparer ça.
Allez, on range les vélos.
Mais qu'est-ce que vous faites là?
Je vais apprendre.
Pourquoi tu sais pas lire?
C'est jamais rentré dans ma tête et puis après j'ai oublié.
A, U.
Non, A, U, ça fait O.
Bah non, ça fait A, U.
Non, ça fait O.
Et P, H, ça fait F.
Non, tu déconnes.
Non. Tu sais même pas tenir ton crayon, bouffon.
Et toi, t'es moche comme ton père.
Quelle naze.
Crétin.
T'as Émile Menou à l'école. T'es trop gentille, hein, Alice.
Et on lève bien les genoux. Lève les genoux, je te les pète.
On peut vivre sans richesse.
Presque. Oh merde, la voilà. Francis, la tireuse, allez, oh. Allez, les gars.
Salut, ça va?
Non, Patrick, ça va.
Madame le maire.
Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses.
Pour vous avez vu ma dictée? Presque sans faute. Oui.
Juste 12. Ouais.
Monsieur Menon, la cigarette?
Bah c'est la récré.
Voilà, on mélange un petit peu toutes les cultures et ça c'est intéressant, Pascal. Un sexagénaire au milieu des plus jeunes, cette différence de génération, et c'est assez sympa. Et puis tu le disais, se retrouver dans des petits villages de France, ce monde rural.
Oui, en plus le retour de Michel Blanc, qui est un excellent acteur,
avec des super dialogues.
C'est vrai qu'en plus il peut varier tous ses rôles. Je l'ai revu il y a pas longtemps, un film que j'ai pas pu voir, hein, c'est les petits boulots. Les petits boulots, il joue le rôle d'un gros mafioso qui flingue, qui est commanditaire de meurtre, enfin voilà. Ouais. Et alors là, c'est grave et tout, et bon, le film est super. C'est là que tu vois quand même, c'est un très très bon acteur, Michel Blanc. En plus, nous, on a eu la chance de le voir un petit peu depuis les bronzés.
Oui, depuis l'équipe du Splendide.
Voilà, l'équipe du Splendide, exactement, oui. Et voilà, apparemment, c'était une bonne école. Michel Blanc, oui, bien sûr, vous pouvez vous poser sans problème devant un film avec Michel Blanc. Vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est sûr.
Vous allez conclure avec lui, vous allez conclure.
Ouais, voilà, sur un malentendu.
Voilà, donc à ne pas rater cette semaine Les Petites Victoires, on vous recommande ce film de Mélanie Auffray, retour pour son deuxième coup d'essai.
Oui, puis je trouve c'est chouette parce qu'en plus ça parle de plein de sujets. Mm. Tu vois, on parle de l'illettrisme évidemment, on parle aussi de la désertification des villages, on parle de voilà toutes ces choses-là, des gens qui sont un petit peu isolés dans les campagnes. Et c'est très bien parce que c'est un, comme on l'a dit tout à l'heure, un sujet d'actualité. Hein. Comment redynamiser ces villages qui sont désertés, soit qui sont devenus, comme je t'ai dit tout à l'heure, des cités dortoirs. Et là, il se passe plus rien. il se passe plus rien au niveau communal, hein. C'est-à-dire, alors évidemment, il y a des conseils, le conseil municipal, tout ça, mais voilà, ce qui apporte la vie, ce sont les commerces. C'est là où les gens se croisent. Tu vois ce que je veux dire?
Exactement.
Est-ce que quand tu vas à Leclerc, est-ce que tu vas discuter au comptoir du boulanger de chez Leclerc? Non, t'as pas envie. T'as qu'une envie, c'est de barrer, quoi.
Ouais.
Parce que déjà, tu vas arriver à la caisse, t'as le poil qui se hérisse, tu vas te dire, oh là là, je vais en prendre pour je sais pas combien. Et non, c'est pas l'endroit où t'as envie de discuter. Il y a de la foule partout, ça bouge dans tous les sens. Tandis que des petits commerces, tu peux te poser, tu croises le voisin, tu croises le maire, tu croises.
C'est le moment des popotes.
Ben ouais, tu peux discuter un petit peu, quoi. C'est moi, ce que j'aimais bien, tu vois, dans cette fois avant que ça soit ravagé par la grande distribution. Mais tu sais, moi quand je distribuais les programmes avant, tu sais que je prenais du temps.
Ah oui.
Ça me prenait du temps pour remonter la rue de la République et la rue Victor Hugo.
3 jours.
Ben oui, parce que on parlait.
Ouais.
Parce qu'on parlait. Les gens disaient, ah, mais tiens, qu'est-ce que vous allez passer et tout ça. Mais on leur disait, ouais, tiens, vous vendez ça. On discutait. Et on avait un lien.
Ouais.
Et c'est important. C'est important. Et puis, je trouve même que c'était gratifiant aussi d'apporter des conseils cinéma. Dire, tiens, loupez pas ce film-là, ça va être super, tout ça. Voilà, ça sert à ça, on va dire, l'échange. Et bon, j'espère que ça va revenir. Hein. Je veux pas faire une peinture défaitiste des campagnes qui se dépeuplent, mais je pense que ça reviendra. Ça reviendra parce que c'est déjà dans le mouvement actuel et on est en train de redimensionner un petit peu tous ces lieux de vie là pour les rendre plus attractifs et surtout plus humains.
On va creuser les doigts et on va rester optimiste pour la suite et l'avenir. On va revenir sur un bel événement qui a été primé, notamment pour un acteur qui a été oscarisé. C'est un film qu'on entend parler en ce moment, The Whale.
The Whale, pardon pour l'accent.
The Whale, qui est donc avec un Brendan Fraser étonnant.
Étonnant, surprenant. Il a surpris tout le monde. Hein.
Ah oui,
la preuve, hein. Oscar du meilleur acteur.
Alors, le visage me disait quelque chose, mais alors c'est vraiment surprenant la transformation.
C'est pour ça au début, il parlait de Brendan Fraser, puis moi j'étais là, mais je l'avais même plus en tête le gars, parce que j'étais, à un moment j'étais là.
Moi c'est les yeux,
momie,
dit,
j'étais là, la momie. La momie, et puis je regarde la tête du gars et je fais pas gaffe. Ouais. Je fais pas le rapprochement entre les deux personnages tellement le maquillage était bon. Alors je sais pas, je pense que parce qu'ils ont reçu un prix pour le meilleur maquillage. Hein. Ouais. Mais là c'était la surprise pour Brendan Fraser parce qu'on ne voyait pas trop tourner. Enfin je veux dire ici de l'autre côté de l'Atlantique hein, parce qu'il est quand même américain. Mais
il est sorti de sa momie.
Non mais surtout il est sorti de plein de problèmes de personnel. Hein.
Ah ouais d'accord.
Oui,
okay.
Il revient de loin hein, Brendan Fraser. Alors je vais pas faire l'étalage mais il a des problèmes de santé, des problèmes familiaux, ce genre de choses quoi. C'est un revenant on va dire.
D'accord.
The Whale. Que veut dire The Whale? La baleine. La baleine.
D'accord.
Donc, film américain d'1h57, c'est un drame. Hein. Alors, il a eu 10 nominations, 2 prix. Donc, Oscar du meilleur acteur pour Brendan Fraser, évidemment. Et Oscar du meilleur maquillage. Donc, c'est le film de Darren Aronofsky. Alors, au niveau des acteurs, on va retrouver Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins, Hong Cho, Samantha Morton, Satya Sridharan et Ak Milmer. Alors, le synopsis, il est tout simple, il fait 2 lignes. Hein. Charlie, professeur d'anglais, reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption.
C'est court.
C'est très court, mais ça veut dire beaucoup de choses aussi. Donc, The Whale donc, marque le grand retour de Brendan Fraser au cinéma. Si le comédien n'a jamais totalement disparu des écrans, on a notamment pu le voir dans les séries Trust et Doom Patrol. C'est vrai qu'il fait des séries aussi, hein, beaucoup de séries TV. Il n'a jamais renoué avec le succès de La Momie au début des années 2000. Il a cartonné.
Ah oui, c'était un très très bon niveau.
En plus, il y a eu plusieurs opus. Donc l'acteur s'est fait plus rare ces dernières années en raison de problèmes de santé provoqués par les cascades qu'il réalisait lui-même sur les plateaux.
Ah oui, d'accord.
C'était le Belmondo américain. Hein.
D'accord.
L'acteur est aussi tombé en dépression suite à une agression sexuelle perpétrée par Philip Berk, ancien président de la Hollywood Foreign Press Association, organisation qui s'occupe notamment des Golden Globes. Tu vois, il revient vraiment de loin. Grâce à The Whale, Fraser revient sur le devant de la scène et décroche ses premières nominations aux Oscars, aux Golden Globes, cérémonie à laquelle il a refusé de se rendre, et au BAFTA. Alors, Darren Aronofsky rêve d'adapter The Whale au cinéma depuis qu'il a découvert 10 ans plus tôt à New York la pièce écrite par Samuel Hunter. Il avait été frappé par l'intelligence de la pièce, par le courage avec laquelle elle interroge la condition humaine. Et comme il nous dit The Way, il met en scène des personnages aux âmes complexes. Ils ont commis des erreurs différentes, mais ont en commun l'immensité de leur cœur et un profond désir d'aimer l'autre, même lorsqu'il ne semble pas aimable. Cette pièce, représentée pour la première fois en 2012, a immédiatement séduit le public et la critique, malgré son postulat de départ peu séduisant. Le public voit un personnage assis dans son canapé, pendant quasiment toute la représentation. Aronofsky se souvient du choc ressenti à sa découverte. Et comme il nous dit, j'ai été profondément touché par les idées abordées et par la façon avec laquelle le récit trouve toujours de la beauté dans des choses que nos préjugés rendent a priori inhumaines. J'ai été touché, j'ai ri et je me suis senti porté par le courage et la grâce de chaque personnage. J'y ai trouvé cette problématique que j'aborde souvent dans mes films, comment placer le spectateur à l'intérieur d'un personnage qu'il n'aurait jamais pu imaginer être. Alors, d'après la pièce d'origine de Samuel Hunter, qui signe le scénario du film, donc c'est une expérience nouvelle pour lui qui n'avait jamais écrit pour le cinéma. Il a dû replonger dans une période sombre de la vie. Il s'est en effet inspiré de sa propre expérience lorsqu'il était étudiant obèse pour écrire la pièce. Bien qu'il aimait ainsi depuis, il a vécu ce que les gens comme Charlie endurent physiquement et socialement. Il existe de nombreuses causes à l'obésité qui touchent plus de 40% des Américains, ce qui est énorme et c'est vrai que c'est une véritable épidémie. L'écrivain, lui, a toujours fait le lien entre son excès de poids et sa frustration émotionnelle. Et comme il nous dit, je connais beaucoup de gens qui sont gros, heureux et en bonne santé. Mais ce n'était pas mon cas. Je fréquentais une école chrétienne fondamentaliste à l'époque où ma sexualité s'est révélée à moi et cela a engendré une relation malsaine avec la nourriture. Charlie souffre d'une insuffisance cardiaque due à son obésité, mais il est surtout en train de mourir d'un chagrin qu'il n'a jamais eu le courage d'affronter. Alors, le rôle de Charlie exige une vulnérabilité et un abandon total de la part de son interprète. Darren Aronofsky a hésité pendant 10 ans pour le casting avant de repérer Brendan Fraser dans la bande-annonce de « Voyage jusqu'au bout de la nuit ». En février 2020, il le réunit avec d'autres acteurs pour une première lecture. Dès le premier instant des répétitions, j'ai eu des frissons et j'ai su que j'allais faire ce film avec Brendan. Le comédien était conscient qu'il s'agissait d'un vrai défi. Et comme il nous dit, j'ai dû réunir tout ce que j'étais et tout ce que je savais. J'ai mobilisé mon corps, ma mémoire, mon cerveau. Je savais que c'était le rôle de ma vie, quitte à ne plus jamais rien faire après. Alors tout ce que je suis est là à l'écran. Charlie est loin d'être un ange, mais il est incroyablement humain. Alors évidemment, il a la préparation énorme. Parce que quand tu vois l'affiche, c'est à quoi tu nous, je l'ai mis exprès d'ailleurs.
Ouais, 20 kilos de
pour que tu le vois bien.
Brendan
Fraser s'est beaucoup documenté pour préparer son rôle. Il a interrogé les personnes atteintes d'obésité, regardé tous les films mettant en scène une personne de forte corpulence afin de voir comment les différents acteurs abordaient ce rôle. Il a relu Moby Dick et appris avec l'aide de Beth Lewis, coach en mouvement, à se déplacer dans l'appartement comme Charlie. Il s'est habitué également à porter le costume. Je reviens tout de suite. Le costume de 50 kilos
et
la prothèse qui complétait la transformation de son corps. Avec Darren Aronofsky, lui, il a consulté le docteur Rachel Goldman, une psychologue spécialisée dans les comportements alimentaires et le traitement de l'obésité. Ainsi que l'Obesity Action Coalition, la principale association de défense du pays. En plus de les conseiller sur le langage et les spécificités du scénario, l'OAC, donc les a mis en contact avec des personnes prêtes à livrer leur expérience de l'obésité. Gros programme, grosse préparation, énorme succès pour The Whale. Et je suis vraiment, vraiment content pour Brendan Fraser qui revient vraiment, vraiment de loin. Puis en plus, tu le vois pas trop dans ce rôle, parce que moi, franchement, pour moi, c'était George de la Jungle, Brendan Fraser. Après, il a des rôles un peu plus sérieux, comme dans La Momie, Le Retour de la Momie, tout ça, il y a eu 3 opus. Hein. De toute façon, on va en reparler tout à l'heure. Mais voilà, on le voyait plus dans des choses un peu plus légères, un peu plus guillerettes. Et... C'est marrant parce que je pense que le réalisateur a été donc Darren Aronofsky a été un visionnaire parce que pour aller chercher quelqu'un qui est plutôt dans le comique pour aller faire quelque chose de ultra dramatique et pas avoir pris la super pointure de l'époque, moi je dis bravo parce que c'est un talent ça, tu vois, de reconnaître les gens, c'est vraiment un talent. Et de voir un petit peu comment il a flashé pour la première lecture, il faut avoir un instinct, quoi. Il faut être vraiment.
Ouais, puis ça permet de voir un petit peu les différentes performances d'un artiste et de le sentir, comme tu disais, détecté. C'est pas évident. C'est là qu'on reconnaît la qualité d'artiste, hein, justement.
Ouais,
savoir
exactement.
S'adapter, de pouvoir changer et de pas rester cantonné à un rôle, à une image.
Oui, puis en plus, il y a tout ce travail qui est colossal derrière, c'est-à-dire l'adaptation du personnage. À partir du moment où Brendan Fraser a dit, ouais,
on se met dans la peau de.
Il faut se préparer. C'est pas rien, parce que tu t'arrives pas comme ça, les mains dans les poches, au rayon maquillage. Hein, donc ça prend du temps, tout ça. Et ça a porté ses fruits. Je suis vraiment content. Et parce qu'en plus, je pense que, après ce rôle-là, va venir le chercher pour d'autres sortes de films, pour d'autres répertoires,
un petit tremplin pour la suite,
d'autres répertoires, et voilà, ça fait rebondir sa carrière et je suis super content pour lui. Vraiment bravo à lui, bravo au réalisateur aussi d'avoir fait ce choix là
aller faire donc
un
saut au cinéma à La Brèche pour aller voir ce film,
donc The Whale, donc à découvrir à La Brèche de Darren Aronofsky, que vous aurez en VO et en VF, vous imaginez bien,
c'est formidable. On enchaîne, le temps passe vite, Pascal, et on va parler de À la Belle Étoile.
La Belle Étoile, oui. Donc, le dernier film de Sébastien. Alors, c'est pas son dernier film, c'est son premier film, Sébastien. Pareil.
Courage.
Ouais, tu vois, il y a que des deuxièmes et premiers films. Alors, ouais, franchement, on te souhaite une bonne chance. Premier film dans La Belle Étoile, film français d'une heure cinquante, c'est une comédie dramatique. Au niveau des acteurs, on va retrouver Riyad Belaïch, Lubna Abadar, Christine City, Patrick Dasumasao, Phoenix Brossard, Anis Mansour et Lika Minamoto. Alors depuis son plus jeune âge, Yazid n'a qu'une passion, la pâtisserie.
Ça c'est bien.
C'est extra. Élevé entre famille d'accueil et foyer, le jeune homme s'est forgé un caractère indomptable. Déperné à Paris en passant par Monaco, il va tenter de réaliser son rêve.
Le plus gros gâteau du monde.
Travailler. Mais non, il veut travailler dans les meilleures pâtisseries du pays, tu penses bien. Donc voilà, un film sur la volonté et le courage. L'entreprise, tout. Donc ça sera à découvrir donc à La Brèche cette semaine, à La Bonne Étoile.
Voilà, donc un très très bon rendez-vous. On va parler de cet acteur que tu évoquais il y a quelques instants, Pascal, hein, bien évidemment oscarisé dans ce très très beau film, le retour de la momie, non pas que la momie, hein, puisque évidemment vous allez pouvoir le découvrir dans un autre personnage plutôt étonnant. Tu lisais Brendan Fraser de retour.
Brendan Fraser, alors voilà.
Et un petit éclairage sur cet acteur.
On va parler de sa filmographie, de sa biographie.
Allons-y.
Qui es-tu? D'où viens-tu? Moi, je sais d'où il vient. Il vient de loin. Ouais. Ça, je peux vous le dire. Alors, c'est marrant parce que, Brendan Fraser, il est acteur, producteur. Et quand j'ai commencé à faire sa fiche, il m'avait marqué, alors, c'est 29 années de carrière, 51 films, 11 séries tournées. Et il avait marqué, zéro récompense, zéro nomination.
Voilà, mais écoute, c'est venu, là.
Cette humiliation réparée.
Ouais.
Brendan, c'est bon. T'es revenu à la lumière et je pense que ça va continuer. Alors évidemment, il a eu l'Oscar du meilleur acteur, ce qui n'est pas rien. C'est vrai qu'aux Oscars, c'est ce qu'on regarde en premier, qui est arrivé en premier. Et je trouve que c'est vraiment, ils l'ont fait un bel hommage. Donc il s'appelle Brendan James Fraser. Il est américano-canadien. Il est né le 3 décembre 1968 à Indianapolis. Dans quel état? La réponse est dans la question.
Oui, ça...
L'Indiana. Ouais. Indianapolis.
Oui.
Donc c'est dans l'Indiana aux USA. Donc ça nous fait un jeune homme de 54 ans. J'aime bien, ça te fait sourire.
Oui.
Alors évidemment, il y a 51 films. Personnellement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'en ai retenu que 7 parce que les autres ne sont vraiment pas très connus. On le verra pour la première fois en 92 dans La Différence de Robert Mendel avec Matt Damon et Chris O'Donnell. On le verra ensuite en 97 dans Le Georges de la Jungle,
ah oui,
de Sam Weissman avec Leslie Mann et Richard Roundtree. En 99, un film qui a fait du bruit, que j'ai projeté, tout ça, qui a vraiment très bien marché, La Momie.
Ah oui,
de Stephen Sommers.
Tu en parlais tout à l'heure, ouais.
Et oui, il y avait Rachel Weisz, qui était super. Rachel Weisz dans La Momie. Non, mais
elle était pas horrifiée, non?
Non, elle était horrible, mais elle était super. C'était une très belle femme, d'ailleurs. Et puis, elle était
Raquel Welch, ouais.
Et John Hannah. En 2001, le retour de La Momie. Toujours de Stephen Sommers, avec évidemment Rachel Weisz et Dwayne Johnson. En 2008, Voyage au centre de la Terre d'Eric Breivik, avec Josh Hutcherson et Anita Brien. En 2008, La Momie, la tombe de l'empereur dragon. de Rob Cohen avec Jet Li et Maria Bello. Et en 2009, G.I. Joe, le réveil du cobra, toujours de Stephen Sommers, avec Channing Tatum et Sienna Millers. Voilà quelques films dans lesquels a joué donc Brendan Fraser.
Ouais, quelques films d'aventure.
Oui, à chaque fois, tu vois, c'était souvent dans le même registre.
Ouais.
Ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée du registre. Alors évidemment, tous les films ne sont pas là. Il y a 54
ans. On a pu lui mettre un chapeau.
Mais tu vois,
ça tourne... le confondre avec Harrison Ford.
C'est le film fantastico. Enfin, tu vois, c'est aventure fantastique, on va dire, c'est ça.
Ouais, avec le lasso d'Harrison Ford. Non,
ça c'est Indiana Jones.
Oui, non, mais...
on va en parler ça bientôt. Oui. On va en reparler d'Indiana Jones.
Ça va sortir, ça va arriver.
Ils ont osé.
Ouais.
On va parler de sa biographie. Brendan Fraser passe son enfance à la fois aux États-Unis et en Europe, puis s'installe finalement à Seattle pour terminer ses études. Après un court passage sur les planches, l'Américain débute sur grand écran en 91. Il ne tarde pas à décrocher des rôles principaux. Dès l'année suivante, il s'illustre dans deux registres opposés, le drame, La Différence, dans lequel il partage l'affiche avec Matt Damon et Chris O'Donnell. Donc le film Le Drame et la Différence. Et la comédie California Man, où il joue un homme préhistorique qui découvre le monde moderne quand deux lycéens le décongèlent. Tu vois le truc, tu vois le registre.
Hibernatus.
C'est un petit peu ça. C'est d'ailleurs dans ce registre comique que l'acteur va s'épanouir. Même si on le croise dans des productions telles que le biopic Ni Dieu ni Démon sur James Whale, le réalisateur de Frankenstein et l'étrange Darkly Noon de Philip Ridley, son visage bonhomme très expressif fait recette dans Radio Rebels en 94, le film de Disney, donc Georges de la Jungle, donc en 97, où il campe un Tarzan pour le moins décalé. Et, première sortie, en 99, une romance avec Alicia Silverstone. En 99, Brendan Fraser connaît la gloire internationale grâce à son personnage d'aventurier dépassé par les événements dans... La Momie.
Ah oui.
Rôle qui reprendra à deux reprises dans Le Retour de la Momie en 2001 et La Momie 3, La Tombe de l'Empereur Dragon. En 2008. Fort du succès du film de Stephen Sommers, il enchaîne avec Endiablé, où il fait un pacte avec Elizabeth Hurley et prête ses traits au diable. Il continue de s'amuser avec le loufoque Monkey Bone et donne la réplique à des héros animés dans les Looney Tunes. Passe à l'action. Rare à la télévision, on le croise toutefois dans trois épisodes de la sitcom Medical Scrubs, où il campe le beau-frère du Dr. Cox, atteint d'une leucémie. Un rôle qui prouve sa capacité à incarner des rôles dramatiques forts, comme en témoignent également ses prestations dans « Un Américain bien tranquille », « Thriller » de Philip Noyce, où il donne la réplique à Michael Caine, et « Collision », qui a eu l'Oscar du meilleur film en 2005. Mais il semble toujours privilégier le cinéaste de divertissement. Revenant en 2008 au cinéma d'aventure, avec « Voyage au centre de la Terre », qui était sorti en 3D, et tentant de renouer avec le triomphe du début des années 2000 avec « La Momie », »,« La Tombe de l'Empereur Dragon » et le film fantastique familial, donc cœur d'encre. S'il continue de tourner au début des années 2010, le succès n'est pas au rendez-vous et les productions où il apparaît passent inaperçues. C'est pour ça que j'ai vu toute une flopée de films et je me suis dit, oh là là, je n'avais pas entendu parler de celui-là. Il n'était pas dans mes radars, hein, plein de films comme ça. Voilà, ça a dû sortir en Amérique et ça n'a pas dû faire de grosses tournées en Europe. L'acteur se fait de plus en plus rare en raison de problèmes de santé provoqués par les cascades qu'il réalisait lui-même sur les plateaux. C'est grâce à la télévision que sa carrière connaît un nouvel essor avec The Affair en 2016, Trust en 2018, Condor et surtout Doom Patrol en 2019. Cette dernière est un programme DC Comics centré sur des super-héros rejetés par la société et traumatisés par des événements brutaux. Brendan Fraser y incarne Clifford Steele alias Robotman. Dans le sillon de hashtag MeToo, l'acteur révèle en 2018 avoir été agressé sexuellement en 2003 par Philip Burke, ancien président de la Hollywood Foreign Press Association, organisation qui s'occupe notamment des Golden Globes. Une agression qui l'a poussé à se mettre en retrait, expliquant comment celui qui était une star à la fin des années 90 a disparu un temps des écrans. Sa renaissance au cinéma, il la doit à The Whale en 2022, dans lequel il incarne un homme obèse de 270 kilos en quête de rédemption. Grâce au drame de Darren Aronofsky, il décroche ses premières nominations aux Golden Globes, cérémonie à laquelle il a refusé de se rendre, et au BAFTA, et obtient l'Oscar très convoité du meilleur acteur. Gloire.
Ouais, bravo.
Gloire à toi, Brendan Fraser. Tu reviens sur le devant de la scène et je pense que ta carrière va faire un sacré rebond et qui va pouvoir un petit peu s'étoffer et puis se voilà faire travers de drôles différents, on va dire.
On vous invite donc à aller voir ce très très beau film.
On vous recommande chaudement de venir voir The Whale, bien sûr. À la Brèche. Ainsi est la vie, le début de la renaissance de Brendan Fraser. Ce n'est pas la fin de sa carrière, bien au contraire.
Ouais.
On lui souhaite plein de bons, d'autres films.
Et un très bon retour.
Et voilà, ouais, une carrière pleine de succès.
Eh bien, merci Pascal pour cet éclairage, en tout cas, et pour ce nouveau rendez-vous de l'émission Entracte. On va se quitter puisque le temps passe très très vite, en tout cas, et on apprend beaucoup de choses chaque semaine dans ton émission Entracte, l'émission qui donne envie d'aller au cinéma.
J'espère.
Ah, c'est sûr, certainement. On rappelle le printemps du cinéma, hein, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de faire plaisir, si vous avez envie de fêter le printemps, faites-le au cinéma.
Voilà, c'est ça. Dimanche, midi, mardi, 5 € la séance.
Voilà. 5 euros, c'est... Voilà.
C'est modique.
Voilà, c'est exactement...
Dans toute la France, hein. Franchement, vous pouvez aller dans toute la France, bien sûr, oui.
Mais venez surtout à la Brèche.
Mais venez surtout à la Brèche, bien sûr.
Bon, Pascal, je te laisse le mot de la fin.
Eh bien, prenez soin des vôtres, regardez-moi la télé, écoutez Radio Grand Air, et venez au printemps du cinéma, il y a 23 films à découvrir, il y a du choix, il y en a pour tout le monde, il y a des films qui sont primés, il y a un peu de tout, il y en a pour les petits, les grands, les moyens.
Et des acteurs oscarisés.
Et des acteurs oscarisés. On vous attend chaudement. En attendant, à très bientôt. À bientôt, Christophe.
Oui, bonne semaine, Pascal.
Avec plaisir.
Et à très vite, devant ou derrière la caméra.